vous entretenir de l'Institut universitaire Saint-Pilis. C'est fait non pas pour vous faire forcément la publicité, quoique, mais pour également vous parler un petit peu de la cohérence et de l'éducation. En un mot, tout ce qui constitue la vie chrétienne, remis en honneur, eh bien, il ne manquera plus rien pour que nous contemplions la restauration de toutes choses dans le Christ. Donc, ainsi s'exprimait Saint Pilice au moment où il inaugurait son pontificat en indiquant la devise de son programme « Omnia historia regni Christo » selon Saint Paul, qui est une phrase de Saint Paul aux Éphésiens. Et parmi les grands chantiers de son pontificat, il y eut en particulier l'instruction religieuse, et puis la lutte contre le laïcisme, contre la sécularisation des mœurs, comme on le disait à l'époque, toutes ces lois anticléricales, spécialement en France, avec la séparation de l'Église et de l'État, qui chassaient Dieu et son Église de la cité, de l'école, des métiers, en un mot, de la vie publique. Je fais une petite parenthèse publicitaire. Si vous voulez tout savoir sur les grands chantiers du pontificat de Saint-Pilice, vous pouvez acheter la revue de l'Institut Saint-Pilice consacrée à Saint-Pilice. J'ai vu qu'il y avait un numéro là-bas. Fin de parenthèse. En tout cas, sur cette lutte de Saint-Pilice contre la sécularisation de la vie publique, eh bien, il continua aussi la politique de ses prédécesseurs en matière d'éducation en encourageant vivement les facultés, les universités catholiques. La plupart, en effet, des instituts universitaires catholiques étaient nés, je me contente de parler de la France, au XIXe siècle, au moment de la reconquête, de la reconstruction, du retour de l'Église après l'épisode douloureux de la Révolution française qui avait fermé toutes les écoles, tous les lycées, toutes les universités tenues par les bons pères et les bonnes sœurs. Et ce mouvement de recréation, je pense à Monsieur Frépel à Angers, de recréation et de fondation d'universités catholiques, eh bien, avait aussi pour but de réagir à l'université jacobine, étatique, révolutionnaire, née notamment sous l'influence de Napoléon, qui avait, elle, et qui a toujours, cette université jacobine étatique, pour but de former des bons citoyens comme il faut. C'est-à-dire des citoyens républicains, démocrates, défenseurs de l'ordre laïque, de la laïcité. L'ordre de la laïcité, je vous rappelle ce que disait le rapport de la commission Stasi en 2003, qui a été remis à notre président, au chef de l'État. La laïcité, c'est la pierre angulaire du pacte républicain. Pierre angulaire, c'est un mot tiré de l'Évangile. C'est bon, fin de parenthèse. Cet ordre laïque, indifférent, comme on le dit aussi, à l'égard de Dieu, est un ordre hostile à l'Église, hostile à l'Évangile. Et en 1903, en tout cas, à l'époque, les papes fustigeaient en des termes très nets, sans ambiguïté, cette sécularisation. Saint Pilice, je reprends encore ces mots, parlait d'une guerre impie qui va se poursuivant partout contre Dieu. Et ainsi, par cette guerre impie de la laïcité, les nations abandonnent leur Dieu et Seigneur et semblent crier, elles, ces nations jadis chrétiennes, elles semblent crier au Christ, retirez-vous de nous. Vous voyez, c'est dans la fête du Christ-Roi, la foule scélérate, c'est dans l'hymne de la fête du Christ-Roi, crie contre Dieu, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. C'est le contraire du Christ-Roi, du combat du Christ-Roi. Et Saint Pédis envoyait les funestes conséquences parmi les peuples. Il disait ceci, de là, donc de cette laïcité, en la plupart, un rejet total de tout respect de Dieu. De là, des habitudes de vie, tant privées que publiques, où nul compte n'est tenu de sa souveraineté. Bien plus, il n'est effort ni artifice que l'on ne mette en œuvre pour abolir entièrement son souvenir et jusqu'à sa notion. Vous voyez, on essaye d'aller jusqu'à la notion que les gens puissent vivre en n'ayant même plus même à l'esprit la notion même de Dieu. On est en dessous même du sentiment religieux naturel que l'on trouve encore bien plus vif que dans nos sociétés matérialistes, comme je le disais, à Madagascar ou dans des pays du tiers-monde, ils sont tellement pauvres qu'ils ont souvent, au moins naturellement, une certaine, pas partout, hein, mais ils ont souvent, on trouve une attention, une disposition, je veux dire, à recevoir une instruction bien plus facile qu'en Occident, ou même aborder Dieu, c'est déjà difficile. Mais, il n'y a qu'en France, enfin en France, en Occident, qu'on me donne du monsieur. Mais dès qu'on part à l'extérieur, monsieur l'abbé, mon père, c'est tout à fait normal. Fin de parenthèse. D'où, et c'est bien là le fondement du combat universitaire et scolaire de l'Église, la question qui se pose, les deux étendards, dirait saint Ignace, la laïcité, l'abandon de Dieu, la laïcité qui est le système juridique, moral, politique, qui s'est substitué depuis 200 ans en France, en particulier, au système de catholicité. Il y avait la loi de catholicité qui régissait qu'un cas, l'État, et maintenant c'est la loi de laïcité, de la pseudo-neutralité de l'État, qui est en fait une attaque contre le droit naturel et le droit révélé, enfin la loi éternelle. Bon. Alors, première partie dans mon discours, après cette introduction un petit peu longue. Donc la question, c'est la laïcité ou la catholicité, le Christ roi ou autre chose. Cette situation, en tout cas que décrivait déjà saint Pédice, explique le caractère aigu, c'est moi qu'on puisse dire, de la confrontation entre l'État jacobin et l'Église, d'autre part, sur le terrain de l'éducation. Et ça ne date pas d'hier. Alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire des combats, du combat scolaire depuis spécialement le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, vous connaissez certainement, je m'adresse spécialement aux parents, vous connaissez le devoir grave que vous avez de donner à vos enfants une éducation chrétienne, avec une instruction qui soit bien sûr à la hauteur, en harmonie avec la vérité de Dieu, la vérité de la foi, comme la vérité de la raison, puisque Dieu est à la fois auteur de la révélation et auteur de la nature humaine. Il n'y a pas d'opposition. Aujourd'hui, plus que jamais, ce combat de l'école est primordial. C'est de là que sortent, par exemple, beaucoup, voire la plupart, des vocations religieuses et sacerdotales. C'est là qu'est souvent protégée encore la pureté des mœurs. Parce que, enfin, sans vous faire peur, on a parfois des échos dans des collèges, ou voire à l'école primaire, où on croirait marcher sur la tête, en matière spécialement de pureté. Donc c'est très important, c'est là que souvent tout se joue. Hein, les documents de la haute vente des Carbonari francs-maçons disaient « Allez à la jeunesse pour préparer dans l'Église une nouvelle génération qui ensuite subvertirait, soulèverait tout l'ordre ancien. Bon. » C'est le principe de la Révolution, c'est d'aller à la jeunesse, de pourrir la jeunesse, et comme ça on est certain de préparer l'avenir, une génération de sans-dieu. Donc, l'éducation est primordiale, fondamentale. Saint Thomas d'Aquin, dans un commentaire de l'Éthique et Nicomaque, explique d'ailleurs que l'éducation, ça fait quasi, il y a un quasi en latin, presque tout dans la vie d'un homme. Tellement l'éducation, c'est tout ce qu'il a reçu de la société, de ses parents, etc. Et ce devoir, j'insiste, est de plus en plus pressant. Un père de famille me disait avoir pris conscience de ce combat actuel dans une petite école de village où il avait mis ses enfants en pensant que quand même, dans une école de village, loin des grandes villes, ce serait quand même à peu près préservé. C'était une école où il y avait des classes communes, vous savez, avec un instituteur qui faisait classe à toute l'école primaire en même temps. Bon, ça a son charme, sans doute. Et il disait là... mes petits ne craignent rien. Et puis un jour, en revenant de l'école, son petit garçon, qui devait avoir 8 ou 9 ans, pas plus, lui expliqua ce qu'il avait appris à l'école aujourd'hui. J'ai appris, le maître nous a dit que les policiers et les gendarmes étaient des gens très méchants. Ah oui, et pourquoi ça? Oui, parce qu'ils mettent les gens en prison. Alors, donc ce jour-là, le père de famille a perdu quelques illusions et a rectifié. Il dit, c'était d'abord les criminels et les brigands qui sont méchants, et c'est le devoir des policiers que d'arrêter les méchants et de les mettre en prison. Quoi. Donc il a compris comment, il a quand même commencé à se poser des questions et surtout à comprendre discuté longuement, que c'est les IUFM en France, les instituts universitaires de formation des maîtres, qui forment qui sont des écoles militantes, de militantisme républicain, idéologique, gauchiste, hein, surtout depuis 68, et qui ont succédé aux écoles normales, fondées, je vais y revenir d'ailleurs, enfin je le dis tout de suite d'ailleurs, par un décret du 9 Brumaire en 3 de la République, qui avait fondé les écoles normales pour former les instituteurs de la République. C'est un décret du comité d'instruction publique de la Convention nationale qui avait justement pour but de former une jeunesse savante et philosophe qui serait bien sûr éclairée, c'est-à-dire qui, comme dirait Kant, ne suivrait que les lumières de leur propre entendement, à savoir de la conscience purement privée, et les convictions éventuellement religieuses qu'on pourrait avoir, eh bien, seraient uniquement du domaine purement privé de la conscience individuelle. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de politique, mais c'est quelque chose qui est très connu et très ancien, et qui, aujourd'hui comme hier, eh bien, inspire quantité de méthodes pédagogiques aussi, et d'éducateurs, dans spécialement les UFM. Il y a des livres qui ont été écrits aujourd'hui, de témoignages d'instituteurs qui, quand même, voient souvent de graves lacunes ou de graves dérapages dans la formation qu'ils ont reçue, et qu'ils ont souvent reçue en baissant les chines et pour ne pas se faire taper sur les doigts s'ils n'appliquaient pas ensuite les méthodes de l'IUFM. Quoi. Donc le combat de l'école est primordial. Mais ce combat de l'école ne se borne pas, et là j'arrive à mon sujet, à la seule école primaire, ni au seul collège, ni même au seul lycée. Si les études supérieures universitaires doivent détruire ce qui a été construit ou acquis difficilement après de longues années dans les pensions, dans nos écoles, on perd son temps, son argent éventuellement, en tout cas le fruit de ses sacrifices et de ses bonnes œuvres. Et il faudrait peut-être réagir. C'est ce qu'ont fait les papes, donc, je vous disais, en encourageant depuis bien longtemps les universités, universités qui, nous l'oublions pas, sont des créations non pas de l'État, mais de l'Église. Sorbonne, la Sorbonne, c'était un aumônier, un chapelain du roi de Saint-Louis, et c'est, comme toujours, l'Église et aussi l'initiative privée qui a fait beaucoup plus que l'État. Mais bon. Parmi l'œuvre scolaire de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, Mgr Lefebvre a voulu qu'il y ait aussi un établissement, plusieurs établissements si possible, au moins un qui existe, lui, depuis 1980, à savoir une université, un établissement d'études supérieures universitaires, donc celui que je dirige depuis 4 ans à la suite de M. l'abbé Laurence. Mgr Lefebvre a voulu cet institut. Il l'a béni, il l'a encouragé de nombreux fortement et plusieurs fois, et en le mettant sous le patronage de Saint Pédis, qui est le propre patron de la fraternité, donc qu'il a fondé. Et ce qui est amusant ou intéressant, c'est de connaître les circonstances qui l'ont poussé à fonder l'Institut universitaire Saint Pédis. Les circonstances sont bien précises, elles sont très bien connues. Ce sont des universitaires, des professeurs catholiques d'université qui en avaient assez, plus cassés, qui n'en pouvaient plus, devant la dégradation des études universitaires après 68 en particulier. Et ces professeurs se sont tournés vers Mgr Lefebvre en disant « il n'y a que lui qui puisse faire quelque chose, qui aura le cran, le courage de nous soutenir ». Et alors ces professeurs sont connus, je pense à Jean de Vigry, par exemple, a soutenu l'œuvre dès sa fondation, à M. Roland Mounier, qui a écrit des ouvrages sur Richelieu, l'assassinat d'Henri IV, et puis les institutions politiques d'Ancien Régime. André Corvisier, qui est un paroissien, spécialiste de l'histoire militaire au temps de Colbert, enfin, je ne vais pas vous faire tout un cours de bibliographie. Et tous ces professeurs, ces maîtres de conférences, ces assistants de Sorbonne, professeur Brancourt et bien d'autres, sont venus chercher Mgr Lefebvre, qui n'avait pas pensé. et qui, bien sûr, y a vu le doigt de la Providence en disant, c'est vraiment le moment, effectivement, de faire quelque chose pour notre jeunesse, sans s'arrêter simplement au baccalauréat. D'où, dans ma deuxième partie, la question fondamentale, pourquoi faut-il un enseignement universitaire catholique dans l'Église, et spécialement aujourd'hui dans la cité, à l'appel donc de professeurs catholiques et puis de Mgr Lefebvre lui-même. Et ici, pour aller plus vite, donc vous avez sous vos yeux, il me faudrait une, car je n'ai plus moi. Je ne sais pas si vous pouvez, quelqu'un peut suivre à deux. Et donc ici, c'est un travail que j'ai fait il y a quelques temps déjà, j'ai résumé l'enseignement notamment de Pie XII, mais qui s'inscrit lui aussi dans la continuité de ses prédécesseurs, pour poser la question, pour éclairer un petit peu les intelligences, et appeler aussi, je serai concret aussi sur l'éducation dans un instant, la vigilance de tous sur ces questions d'éducation, y compris supérieure. Voilà ce qu'écrivait Pie XII en 1952. 1952, ce n'est pas le Moyen-Âge, c'est il y a 50 ans, un peu plus. « Si les vicissitudes des temps ont parfois relâché les liens séculaires entre l'Église et l'université, le désarroi actuel, en 52, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Bref, tout invite à les resserrer de nouveau. » Et donc nous sommes là ensemble pour le faire. L'université, continue-t-il, forme une communauté de maîtres et d'étudiants adonnés au labeur de l'esprit, dont la mission, je passe un peu, est d'être un foyer rayonnant de vie intellectuelle au bénéfice de toute la communauté nationale. C'est-à-dire, non seulement pour chaque individu, vous l'avez ça, je pense, je ne sais plus, non seulement pour chaque individu, je passe un petit peu dans ces Pie XI là, non seulement pour chaque individu, mais aussi pour les familles et pour toute la communauté humaine, dont la perfection suit nécessairement la perfection des éléments qui la composent. Bon, ça, c'est de la philosophie politique, comme je le mets, autour du bien commun, que notre individualisme démocratique, évidemment, tend à nous faire oublier. Bien. Mais pour que l'université soit ce foyer rayonnant de vie intellectuelle, c'est très beau, faut ensuite l'incarner, il faut une double condition, la première et la seconde. D'abord, la première, l'étude dans une atmosphère de saine liberté, et non pas seulement l'accumulation de moyens modernes d'information, d'informatique, de techniques qui trop souvent sont des gadgets, copier-coller, hop, on se fait un exposé par Internet, par exemple, au détriment d'une véritable formation de l'intelligence. Bon. Eh bien, ça tombe bien, ça tombe bien. Depuis 5 ans maintenant, depuis 2001, l'Institut Saint-Pédis est parfaitement libre. Nous avons acquis un statut privilégié qui est le système du jury rectoral. Dorénavant, nous avons nos propres programmes, nos propres professeurs, ça va sans dire, nos propres examens, nos propres correcteurs, nos propres jurys de compensation, d'équivalence et de délibération. On fait tout nous-mêmes comme des grands. Nous sommes reconnus à part entière comme une faculté parfaitement libre, indépendante. Il n'y a qu'une seule chose en France qui ne soit pas encore indépendante, c'est le diplôme. Le diplôme est donné par l'État, c'est le diplôme de la licence ou de la maîtrise pour nos étudiants qui suivent donc nos cursus de ces lettres classiques, philosophie et histoire. Donc vous voyez, on a donc là les diplômes, monopole d'État en France, c'est le recteur chancelier de l'Académie de Paris, dont les bureaux se trouvent en Sorbonne, qui délivre le papier. Mais tout le reste, c'est nous qui faisons ça. J'ai eu l'occasion de présenter cette réforme, notamment à nos amies religieuses à Pouilly en Auxois. Et je leur ai dit, c'est comme si vous, religieuses, ou nous, prêtres pour les écoles de garçons, comme si nous faisions le programme du baccalauréat, nous le faisons passer, nous faisons les compensations, les repêchages s'il le faut, et puis l'État, lui, donne le papier du baccalauréat. C'est-à-dire que c'est une situation parfaitement inespérée, ça c'est sûr. Il a fallu 20 ans pour conquérir cette position. Et ça correspond tout à fait à cette condition que donnait le pape Pie XII pour ne pas se faire manger par l'État. Et on sait de quel État il s'agit. Bon. Ensuite, deuxième condition, pour œuvrer en vue d'une pacifique collaboration des intelligences, il faut la communion des esprits. Mais où pourrait-elle se faire utilement, hors de l'unité de la vérité ? Car, je passe un petit peu, l'université ne dit pas seulement juxtaposition des facultés étrangères les unes aux autres, mais synthèse de tous les objets du savoir, ces qui sont de sagesse, justement, synthèse par une sagesse supérieure. Et les progrès modernes, les spécialisations toujours plus poussées, rendent cette synthèse plus nécessaire que jamais. Ce n'est pas facultatif. Cette synthèse à réaliser, je suis au milieu de la première page, est difficile, délicate. Et le pape, il y a 50 ans, en était bien convaincu, si bien qu'il mettait en garde contre deux écueils. Premier écueil, c'est l'ingérence indue de l'État, et il connaissait bien l'État à qui il avait affaire, qui donc, outrepassant ses pouvoirs, prétendrait imposer à l'enseignement, pour des fins politiques ou idéologiques, l'unité factice d'une philosophie arbitraire. Vous voyez ? Je me permets de dire que cette philosophie arbitraire, cette idéologie régnante, surtout en France, parce que je vis en France, elle est prégnante partout, y compris dans les matières scientifiques. Mais nous, ça va, mon fils, il prépare à l'école polytechnique, donc pas de problème, c'est scientifique, il risque pas le bourrage de crâne. Pardon. Qui, je donne des noms, je dénonce, qui vous n'avez pas que des cours de scientifiques, mathématiques, pour faire des ingénieurs d'armement, mais on a aussi Monsieur Thierry de Montbrial, qui est professeur de géopolitique, enfin il l'était, je ne sais pas s'il l'est encore, Monsieur Alain Finkielkraut en culture générale. Tous ces gens font passer, bien pas seulement des théorèmes ou des équations, mais bien sûr tout un enseignement qui est tout aussi mauvais qu'il le serait dans d'autres écoles qui ne seraient pas spécifiquement scientifiques. Un Thierry de Montbrial, par exemple, c'est un professeur donc, qui est, je ne sais pas s'il a trilatéral, enfin bon, c'est un ponte de la géopolitique actuelle et qui enseigne non seulement à l'IX, mais aussi à Sciences Po, à l'IEP de Paris, et qui fait donc passer ses idées aussi bien chez les scientifiques que chez les politiques. Bref. Fin de parenthèse. Bon, il y a d'autres exemples. Deuxième écueil, c'est l'université servirait mal sa mission en s'abandonnant au pluralisme, à un syncrétisme superficiel. Tout est une question de point de vue, tout se vaut, toutes les philosophies, les religions tant qu'à faire, les doctrines, les philosophies. Non. Au seul plan de la connaissance naturelle, il lui appartient de dépasser la diversité des disciplines, de promouvoir une sagesse et de former la personnalité intellectuelle de l'étudiant. Qu'elle se garde donc, l'université, de faillir à sa plus haute mission qui est de donner à de jeunes esprits le respect de la vérité, de les guider vers les libres démarches indispensables à leur maturité intellectuelle. Bon. Alors c'est une mission délicate, c'est sûr, de fermeté, de discrétion, à laquelle, je l'écris, hein, seules les universités catholiques sont à même de mener. Elles sont comme la clé de voûte de l'architecture, de l'éducation, de l'instruction. Elle vient enfin, c'est inachevé si cette clé de voûte n'arrive pas. Je passe un petit peu, vous avez le texte, il n'y a qu'à le lire. Au service de la jeunesse étudiante, il cite, c'est en 52 toujours, au service de la jeunesse étudiante, de telles universités, couronnées par l'enseignement de la philosophie chrétienne et de la théologie, seront des écoles de vérité. Elles seront aussi des maîtresses de vie chrétienne, morale, civique et sociale. Ça tombe bien. L'Institut Saint-Pédis, nous suivons un cursus de théologie. D'abord, nous suivons le cursus thomiste des études de philosophie et couronné par, en troisième année, une initiation à la théologie pour montrer comment la philosophie sert à la théologie. Par exemple, les années dernières, on faisait un cours que j'avais intitulé « De l'amitié à la charité ». On étudiait l'amitié chez Aristote. Qu'est-ce que l'amitié ? Ses différentes manifestations. Et on voyait ensuite comment saint Thomas d'Aquin reprenait le traité de l'amitié pour l'appliquer à la charité de Dieu. Et vous avez bien entendu Mgr Lefebvre à la conférence à midi, qui explique bien comment la philosophie chrétienne est une sagesse. Et elle va être ensuite, elle conduit si la grâce avec la révélation à une merveille pour enrichir et à amener à maturité les intelligences pour cette synthèse que demande le pape pour parfaire les études et ne pas faire simplement des gens experts, compartimentés, si ça se dit, enfin, confinés dans leur département particulier. Aujourd'hui, on fait ça, on fait des experts. Et qui, sortis de leur matière très pointue parfois, hein, je ne dis pas le contraire, sont ignorants ou n'ont aucune idée de la sagesse ou de comment telle ou telle partie de la philosophie s'incorpore à telle autre et forme une admirable synthèse. Petit souvenir personnel, par exemple, je me souviens en philosophie, en arrivant à l'Institut Saint-Pédis, nous n'avions pas encore ce système, et on commençait la philosophie morale par étudier la justice dans le livre 5 de l'Éthique et Nicomaque d'Aristote. C'est très beau, c'est très bien. Aristote au programme de la Sorbonne, très content. Mais avant le livre 5, il y a le 1, le 2, le 3, le 4. La justice, elle ne vient-on pas comme ça? C'est une vertu. C'est quoi une vertu? Qu'est-ce qu'un acte humain? Et pourquoi les vertus, si on n'a pas vu le bonheur? Le bonheur, c'est le livre 1. Vous voyez, il y a une cohérence de tout l'enseignement. Et si on ne construit pas l'enseignement sur des bases solides, eh bien, on fera des gens très pointus, peut-être sur la justice, une question sociale, très bien, bon, mais ils n'auront pas vu la place de la justice parmi les vertus, que ce n'est qu'une des vertus cardinales. Et ensuite, on a des gens, des philosophes, qui ne connaissent en fait qu'une partie de la philosophie, ils n'ont pas une vue synthétique des choses. Bon, je pourrais prendre d'autres exemples en philosophie en particulier, en histoire aussi, mais je n'ai pas le temps. Donc, vous voyez, tout se tient et il est bon de se le rappeler. Cependant, déjà dans les années 50, Pie XII regrettait avec tristesse, alors il faut tourner la page, que même dans les meilleurs milieux, et là je vous regarde tous et toutes, même dans les meilleurs milieux, on semblait élever parfois quelques doutes sur la raison d'être des instituts catholiques, sur leur opportunité. Et après tout, à quoi bon, Et là, je dois dire que cette attitude, je la trouve parfois. Et le parfois, pour moi, ça veut dire trop souvent. C'est-à-dire que même parmi les meilleurs milieux, donc de bonnes familles, et nous n'avons bien sûr que de bonnes familles autour de nous, à savoir, je le dis, on a fait des efforts pour mettre en pension nos enfants, par exemple dans de bonnes écoles, jusqu'au bac au maximum. Je dis bien au bac, parce que si vous regardez les chiffres dans la fraternité, vous avez un certain nombre d'enfants qui sont scolarisés, il n'y en a jamais eu autant, quelles que soient les écoles, dans les écoles primaires. Et puis ensuite, il y a le passage dans le secondaire, dans les collèges. Mais tout d'un coup, il y en a beaucoup moins. Ensuite, ils sont formés dans les collèges. Passage au lycée, dans le but, le baccalauréat. Il y en a encore beaucoup moins. Il y en a qui partent. Bon. Et puis ensuite, on arrive au baccalauréat. Puis ensuite, après, pour les retrouver à l'Institut Saint-Pédis, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Alors, bon, on pourra trouver 36 solutions, 36 explications. Celle que je vous propose, celle que je vois de mon poste d'observation privilégié, c'est que je ne parle pas des étudiants qui s'orienteraient, bien sûr, pour des études pour devenir ingénieur d'aéronautique ou plombier. Je ne fais pas ça à l'Institut Saint-Pétis, donc je comprends tout à fait. Mais je parle de ceux qui entreprennent des études semblable à celle que nous proposons donc en histoire, en philosophie, en lettres classiques, donc des études littéraires, et puis aussi qui veulent préparer sciences politiques, puisque nous avons une formation qui justement met les bons principes de la doctrine du bien commun pour ne pas se faire avoir par le système ambiant, ou encore nous avons une formation des maîtres pour ceux qui pensent à l'enseignement. Bon, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je constate? Ce n'est que mon témoignage, bien sûr. Mais combien parmi nos jeunes et les parents en ont marre? Je le dis. Je le dis, c'est pas moi qui le dis. C'est dans Marchons droit. En ont marre, je cite, de ne pas être comme tout le monde. De ne plus. Ils voudraient être comme tout le monde. Ils en ont marre d'être à part. Voilà ce que dit Marchons droit. C'est dur d'être toujours à part. De ne pas être comme tout le monde. Enfin, on va pouvoir passer inaperçu. On ne sera pas marqué tradition, fascisme peut-être, intégrisme, que sais-je. On ne sera pas marqué. Enfin, on va pouvoir disparaître dans le décor et y passer inaperçu, incolore, inodore, sans saveur. Bref. Ils veulent, et attention, je ne m'en moque pas non plus, enfin, je dis ça, mais amusant, mais il y a un fondement naturel qui est vrai. c'est qu'on recherche la, reconnaissance sociale, car l'homme est un animal politique, zoon politikon en grec. Bon. Ça veut dire qu'on recherche une reconnaissance sociale. Et on va rechercher, finalement, à un stade ou à un autre, eh bien, à être comme tout le monde. Et on revient à la question bon, du libéralisme, c'est sûr, mais aussi ben, le B3D qui a dû vous parler, donc femme chrétienne, femme mondaine. C'est les mêmes problèmes qui se posent constamment, des choix que nous avons à faire dans notre vie, pour nous et pour celle, pour la vie de nos enfants. Et à chaque fois, on voit quand même pour le baccalauréat ou à l'école Saint-Michel, ça va faire un peu trop marqué. Ben, allez, repars dans ton école du coin. Mais c'est pas si mauvais. Ils ont de bons résultats aussi. On trouvera toujours des et comme ça, on passe inaperçu. Et comme ça, on aura le tampon Saint-Jean-de-Passy et non pas Saint-Michel. Bon. De même, et c'est pareil pour à l'Institut Saint-Pédis, le tampon de la Sorbonne, ça fait encore très bien. Et c'est sûr. C'est une façade, mais ça fait bien. Et etc., etc. Donc, attention à ce danger, toujours, je dis, hein, de vouloir se fondre dans la masse. Et puis, on reste catholique, hein, y a pas de problème, le dimanche de 10h à 11h30. Bon, bon, je suis un peu sévère, mais c'est ça. Et on en arrive, et c'est là, moi, que je trouve ça quand même formidable, on en arrive à ce délire que ce sont des professeurs d'université, parce que j'en ai, moi, des professeurs d'université qui enseignent à Paris, Paris 4, Paris 13, Paris 2, à Rennes, à Nantes, à Reims, plus des professeurs qui enseignent dans des hippocagnes, des cagnes, etc. Ce sont ces professeurs-là qui viennent à l'Institut pour dire « Enfin, on va pouvoir enseigner convenablement des choses sans devoir faire attention à l'inspecteur, que sais-je. » Et enfin, également, ils me le disent, « Enfin, on va avoir des étudiants sérieux, attentifs et intéressés et intéressants, qui ont un bon niveau, parce que, honnêtement, les étudiants qui sortent des écoles dominicaines, pour les filles en particulier, ont un excellent niveau de littérature, de rédaction, pour le latin, n'en parlons pas. C'est le jour et la nuit entre le niveau qu'ils ont. Un professeur me disait que certaines des jeunes filles qui viennent des écoles dominicaines ont un niveau largement semblable à celui qu'ils vont arriver à atteindre en deuxième ou troisième année de licence dans d'autres établissements. Donc, ces professeurs sont fous de joie de venir enseigner à l'Institut Saint-Pédis. Et nous, et en même temps, on a nos bons catholiques, nos tradis, j'ai horreur du mot, enfin, bon, passons, qui, eux, regardent, obnubilés, ah, enfin, on va pouvoir être comme tout le monde, on va aller à la Sorbonne, ailleurs, etc. Où ils feront sans doute la joie de quelques professeurs, mais où on marche sur la tête, si vous voulez. On fait toutes les choses à l'envers. Et chaque année, et c'est ce délire, enfin, cette incohérence, c'est ça que je veux dire aujourd'hui, chaque année, j'ai des cas qui, encore une fois, sont pas toujours tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est évident. Chaque année, j'ai des parents qui me disent, mais nous, on n'a jamais, pour nous, c'était hors de question d'aller ailleurs. C'est évident qu'on va pas. C'est la clé de voûte. C'est ce que disait Pitouze. Et en même temps, mais chaque année, on a encore des gens qui vont à droite et à gauche et se retrouvent à 10 minutes, un quart d'heure de l'Institut Saint-Pédis. Merci. À la Cato en particulier. La Cato qui est, enfin, mieux vaut encore aller à la Sorbonne, sauf exception. Mais ouais. Alors chaque année, je reçois aussi l'inscription d'étudiants, de nos étudiants, qui eux se sont égarés, qui ont fait une année, deux années, trois années à droite ou à gauche, et puis qui reviennent parce que, sauf qui peut. Il faut voir les œuvres, je vais y venir, qu'on leur fait, ou les sujets, les thèmes qu'on leur fait aborder. Il y a 2-3 ans, en Cagne, pour Normal Sup, le sujet, c'était le corps. Bon. Rien que le thème. Alors, ensuite, les œuvres qui allaient avec, c'était clair que, enfin, on peut pas, enfin, qui sont de. Donc, il y a des étudiants qui m'ont dit, bon, j'ai vu le sujet, je demande un transfert de dossier. Voilà. Et je continue, et je suis une excellente étudiante. Mais elle s'était vraiment égarée. Les hippocagnes, tout ça, ont bonne presse, mais en histoire comme en lettres, je peux vous dire, je peux témoigner que c'est très, très, très gauchiste. La Révolution française qui est vue en hippocagne, ça vaut quand même, c'est encore, on est encore à Sobou les Gauchos, pour ceux qui connaissent les historiens, c'est-à-dire la vision jacobine, furet richesse, c'est déjà l'extrême droite. Alors, je ne sais pas si. Je ne parle pas de Soboul, si on parle de Gaxot, alors là, ou de notre ami Ten, on vous corrige même plus, je témoigne, on ne vous corrige même plus, c'est pas la peine. Tellement c'est complètement jacobin. Donc, attention, ça fait 6 ans que je suis à l'institution Sapidis, le pompon, je le raconte à chaque fois, parce que c'est, enfin, je ne sais pas si j'avais raconté il y a 2 ans, je me trouvais dans une école, dont je tairai le nom, jour de fête d'école, fête des parents, les parents viennent avec les enfants, c'est très sympathique, et je vois un couple bien gentil, un monsieur qui m'invite à prendre un peu long parce qu'il faisait chaud, comme ici, et puis il me dit, ah, heureusement que les mères sont là, les mères vraiment, donc c'est une école dominicaine, les mères ont... ont bien formé notre fille, parce que vraiment, ensuite, je peux vous dire, elle en a bavé. Mais heureusement qu'elle était bien formée, elle a réussi tous ses examens, et puis elle est fidèle à la messe, elle reste catholique, etc. On est vraiment contents. Merci, merci, mes mères. Très bien. Alors, je dis, ah bon, elle en a bavé, dites-vous. Oui, c'était affolant. Elle a eu des œuvres, des lectures d'œuvres, mais pornographiques. Comment ça? Ah, je vous assure, me dit-il, c'est le monsieur qui me parlait, en programme de littérature française, en licence, c'était Marquis de Sade, obligatoire, œuvre obligatoire. Alors je me dis, littérature française, en lettres modernes ou lettres classiques? Ah ben lettres classiques. Où? Ben la Sorbonne. C'est bon, il n'y a pas si longtemps. Hein. Ah bon? Bon, et donc on reste toujours sans voix dans ces cas-là. Et en plus, elle suivait une formation à côté. Où c'était, elle m'a dit, en plus, alors là, c'est l'écuménisme, toutes les religions se valent, tout, enfin, c'est vraiment l'horreur, etc. Alors, ben, j'espère qu'elle a, oui, elle a dû résister, elle a bavé, elle a dû se battre, j'imagine. Ben, elle a fait très attention, elle a surtout rien dit, hein, parce qu'en plus, ben, il fallait bien avoir les examens, etc. Et voilà. Mais elle est contente d'avoir terminé. Je dis, ben oui, je comprends qu'elle est encore heureuse, elle est contente d'avoir, bon. Mais tout ça à un quart d'heure de l'institut, moi je comprends pas. Surtout qu'en plus ils avaient fait l'effort de l'envoyer à Paris. C'était pas des gens de Paris, en passant. Et ben voilà, moi ça me renverse. Oui, c'est renversant. Mais je reste. Et surtout, on pense toujours que Dieu sera là pour préserver l'âme de son enfant. Alors, heureusement là ça a marché, mais Dieu fait pas toujours des miracles. Hein. Et puis on s'abîme quand même. Et puis il y a un moment où le non possumus, on peut pas tout avaler. Et encore une fois, la force des méchants, c'est la lâcheté des bons. Saint Pédis le disait. Et là, chaque année, moi je dois dire, sans vouloir faire le redresseur de tort ou le rabat-joie, mais chaque année, et au-delà, j'ai consulté d'autres, l'abbé Bourra qui enseigne à l'école Saint-Bernard, et quantité de confrères, et aussi avec les dominicaines avec qui je collabore, et avec qui je m'entends très bien, qui ont de très bons principes d'éducation, eh bien, il y a chaque année, enfin, on voit, il y a des parents qui ne voient pas, ou alors qui ne pensent à nous que quand ça ne va pas, c'est-à-dire que quand c'est trop tard. Ça faisait bien longtemps qu'on pensait mettre votre enfant dans votre école, etc., mais on attendait, etc., mais alors là, évidemment, il n'y a plus rien à en tirer quasiment, c'est une larve qu'on nous apporte, ce que c'est. Ou alors, il a fallu vraiment que la pourriture soit trop évidente. Je n'ose pas parler de la drogue ou n'importe quoi. Des choses vraiment parfois éprouvantes pour tout le monde. Et on fait ce qu'on peut, mais on ne fait pas des... la nature, elle est là, elle est abîmée. Hein. Et puis, s'il y a trop de retard, s'il y a n'importe quoi, ça ne va pas. Quoi. Mais il a fallu aller voir, il a fallu aller... si vous voulez, on vous a donné... Soit vous avez l'air pur de l'Église, soit vous avez l'air pestiféré du laïcisme. Qu'est-ce que vous choisissez? Ben, il a fallu aller renifler, voir quand même. On peut pas être toujours entre nous, le ghetto, tout un baratin. Et alors, évidemment, ensuite, incohérence, inconséquence. Et ensuite, je vous dis, chaque année, j'ai des transferts de dossiers parce que on n'en peut plus, faites quelque chose. Ben, venez, oui, je ne vais pas refuser. C'est pas un luxe que je peux m'offrir, mais c'est du temps perdu et souvent quand il n'y a pas des naufrages. Voilà. Comme si à 18 ans, je reviens à l'université, comme si à 18 ans ou avant ou après, on avait achevé sa formation. On avait acquis la maturité complète, qu'on était blindé. Non, on n'est pas blindé, c'est faux. Surtout dans notre société qui est tellement dangereuse, pernicieuse. Souvent sous des apparences d'ouverture, tout ce que vous voulez. Hein. Non. C'est au contraire le moment, d'ailleurs, je le dis, 18 ans, parce que donc là j'observe, là je parle de mes étudiants, et de l'expérience de mes prédécesseurs, M. l'abbé Simoulin, M. l'abbé Laurence, souvent, c'est à 18 ans, enfin, c'est lorsqu'on quitte vraiment le cadre du pensionnat ou de l'école scolaire, enfin, où il y a de nombreuses heures de cours, etc., toute la journée, c'est quand on quitte ce cadre où on est quand même bien encadré, justement, c'est dans ces moments-là que se révèlent les vraies, les véritables vertus. Et que ce qui était que disposition, qui tenait qu'un cas parce qu'il y avait le cadre qui était là, bah, ça s'écroule. C'est à ce moment-là que souvent qu'on est même plus vulnérable, qu'on peut être tenté aussi parce qu'on a parfois été un petit peu serré, quoi. Alors là, c'est au contraire, on se lâche. C'est le ressort qui, à force d'avoir été contracté, bondit en l'air. Non, il faut justement, c'est là que parfois des jeunes gens ont besoin d'aide, d'avoir. Il y a des prêtres à la fraternité, à l'Institut Saint-Pélis, mais il y a surtout des professeurs. Mais avoir un cadre et quelque chose qui soit encore catholique, dans l'atmosphère, comme on dit à Paris, l'ambiance, si vous préférez, en province. Bon. Et quand il y a moins ce cadre scolaire du lycée, de la mère surveillante, de la mère titulaire, ou du préfet de discipline, ou que sais-je, c'est alors, encore une fois, que se révèle souvent ce qu'on est vraiment. Et là, sans hypocrisie. Et on a besoin, là encore, et il est bon de savoir de sortir cela. Et je peux moi-même avoir témoigné, parce que je ne veux pas être négatif, il y a aussi, et de fait, c'est ce que je vois souvent, pour ma grande édification, je peux témoigner, avoir vu des jeunes filles hein, qui avaient reçu un très bon enseignement, donc la plupart c'est chez les mères, je connais très peu qui est reçu ailleurs, mais qui encore, bon, qui arrivent, elles sont jeunes, elles sont encore un peu gamines, un peu faux-folles, un petit peu, enfin, un peu délurées, je ne sais pas, enfin, elles sont jeunes, quoi. Et elles vont apprendre à travailler par elles-mêmes, à se prendre en main, et finalement, elles vont devenir, je dirais, des jeunes femmes. Et elles sont plus des jeunes filles. Il y a cette maturité qu'elles acquièrent par leurs études et dans un cadre qui reste catholique, avec la messe, avec les sacrements, bien sûr, mais aussi, et j'y viens enfin, le contenu des enseignements. Parce qu'il faut d'abord voir ça d'abord, c'est qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on leur donne. Vous voyez ? Et en histoire, il faut voir ce qui est raconté sur l'Église en particulier. Et comment est présentée l'histoire de l'Église, l'histoire de la religion. Je ne vais pas refaire encore la conférence de Mgr Lefebvre, mais c'est évident qu'on est. Il faut arriver à travailler sérieusement et à défendre aussi l'Église, quoi. Donc, c'est un aspect important. Voilà. Et les jeunes filles que je vois à l'Institut, bon, si vous voulez, elles ont poursuivi dans la ligne de ce qu'elles avaient reçu. Mais elles n'avaient pas de raison de cesser de recevoir. Vous voyez, c'est un manque, encore une fois, de discernement que de se dire, ça y est, on aurait suffisamment reçu et maintenant, on se permet de plus avoir à recevoir. C'est faux. Mais au lieu de ça, comme l'écrit Marchand Droit, j'y reviens, c'est le numéro 90 de l'an 2000, vous pouvez y voir, « Combien de nos jeunes, je cite, en ont donc un peu marre d'être à part et voudraient bien être comme tout le monde. Bien sûr, ils réalisent que ce n'est pas possible, mais pourtant, ils ne veulent pas se démarquer, s'affirmer contre l'esprit du monde. » Vous voyez, on y revient. Femme chrétienne, femme mondaine. « Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de conviction personnelle suffisamment forte pour être fermes et résolus dans leur foi. » Ils ne sont pas suffisamment fiers d'être catholiques, de la tradition, d'avoir eu cette grâce d'être choisis pour y voir clair sur la situation actuelle, pour être le sel de la terre afin d'aider le monde à se relever. Voyez, on ne restera, je vous dis franchement, hein, on ne restaurera rien du tout avec le drapeau de la foi soigneusement plié dans la poche. Hein. Non, c'est pas comme ça. Et le libéralisme, a dit Mgr Lefebvre, c'est un manque de foi, c'est une trahison. Voyez. Le Christ-Roi, c'est des institutions catholiques, donc y compris à l'université, comme à l'école, comme dans habituellement. Et si possible, on n'y est pas encore, mais encore que il faut les souhaiter, il faut travailler à ça, y compris dans la profession, dans les corps de métier. Oui. La restauration, c'est des institutions, des personnalités, des personnes morales, des cadres catholiques. Avec qui sont pas parfaits, on a parfois des choses à corriger, à améliorer, je sais bien, mais des institutions catholiques. Sinon, encore une fois, on peut crier « Vive le Christ roi », chanter « Christus vincit », au péage de Chartres, c'est très bien, la République vous le permet, donc continuez, mais ça ne changera strictement rien. Hein. Et c'est pas ça qui vous aurez rien relevé. Hein. C'est pas ça. Hein. Le programme de Saint-Pélis, c'est maintenant. Maintenant. Ah oui, mais je compense, n'est-ce pas, avec le MJCF, le scoutisme, tout ce que vous voulez, enfin, je suis ouvert à tout. Bon, sans doute, tant mieux, je vais aux conférences du prieuré, c'est très bien. Mais vous pouvez tout aussi bien vous dévouer dans ces mouvements, eh bien, tout en étant à l'Institut Stabilis. Le MJCF est à 20 minutes, etc. Voilà. Ah, mais je fais partie de la... Tout ça, c'est du vécu, hein, l'entendu. Mais je fais partie de la chorale, j'ai des responsabilités à la croisade eucharistique, donc je ne peux pas venir à l'Institut. Très bien, il y a 5 chorales à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, à 20 minutes à pied, 10 minutes en métro ou en bus. L'abbé Chota recherche justement des aides pour la croisade eucharistique. Ah, mais il y a un mauvais esprit à Paris, c'est mondain, c'est superficiel. Je connais d'ailleurs Bidule Machin, hein, qui fume et qui sort en boîte. Ah oui, c'est sûr, bien sûr, parce qu'en allant à l'université du coin, vos camarades, qui en plus sont des gauchistes, ne seront pas superficiels, ne fumeront pas, n'iront pas en boîte, monsieur. Bon. Sauf qu'ils fumeront peut-être pas que du tabac. Et mieux, ça je l'ai entendu, je préfère rester finalement dans ma université catholique, mais je vais pas en cours parce que c'est trop pourri. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle reçoit ? Rien. Mais comme c'est des personnes souvent douées, elle arrive à peu près à s'en sortir, elles passent leurs examens et elles s'en sortent. C'est pas ça à conduire des études. Enfin, on marche sur la tête. Oui. Bon. Donc voilà le genre d'objection que je rencontre de la part de gens des meilleurs milieux, comme disait le pape Pie XII. Et qui finalement, hein, encore une fois, j'insiste, mettent leurs enfants, conduisent les études universitaires que nous assurons pourtant, oui, et n'importe où. Et je ne veux pas être trop précis parce que c'est... Encore une fois, souvent, je me demande, mais est-ce qu'on est cohérent, hein, question de logique, question de... Comme les jeunes disent, c'est du délire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et parfois, encore une fois, c'est pas les enfants seulement, c'est aussi les parents. Hein. Ce sont l'abbé Delagneau, dans Marchand droit, il insiste beaucoup sur la responsabilité des parents. Ce sont eux qui laissent faire, qui sont faibles, qui... Oh, ma pauvre petite, elle a dû beaucoup souffrir chez les mères, alors forcément... je pense, non, on souffre pas chez les mères. Et par contre, ils vont souffrir ailleurs, hein, en allant s'abîmer dans ce monde, hein, et dont le prince n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Bon. Voilà pourquoi, alors je reviens à Pie XII que l'heure tourne, voilà pourquoi le pape donc rappelait la raison d'être des instituts catholiques, tel que celui, l'esprit avec lequel a fondé Mgr Lefebvre pour l'Institut Saint-Pie X. Bien sûr, alors il donne quelques raisons, je passe, hein, il parle notamment des raisons de convenance par rapport à l'histoire, au rôle de l'Église, à sa mission, à son influence. Mais il dit, et tout cela déjà suffit à justifier... Enfin, pourrait suffire à justifier une pareille dépense d'argent et d'efforts, de sacrifices, mais il en est une autre, plus importante et plus vitale. Elle réside dans l'utilité, le besoin de constituer un corps de doctrine ordonné, solide, de créer toute une ambiance, à Paris on dit une atmosphère, de culture spécifiquement catholique. Nous y voilà. Un enseignement, même irréprochable, dans toutes les branches du savoir, complété aussi par l'annexion à côté de lui, ne suffit pas. Toutes les sciences ont, directement ou indirectement, quelques rapports avec la religion. Non seulement la théologie, la philosophie, l'histoire, la littérature, ben ça tombe bien, c'est ce qu'on fait à l'Institut Saint-Pie X. Il n'y a pas de hasard. Mais aussi les autres sciences. À supposer qu'elles n'incluraient aucune relation positive aux questions dogmatiques et morales, elles risqueraient néanmoins souvent de se trouver en contradiction avec elles. Voilà, vous connaissez dans des jeunes filles qui font des études de médecine, s'il n'y a pas de relation avec la morale et la religion, ben, en droit, c'est pareil. Faut ouvrir les yeux. Donc tel est le caractère des universités catholiques qui doit demeurer, précise Pie XII. Donc il n'y a pas besoin de changer. Université ne dit pas seulement, c'est ma conclusion, juxtaposition de facultés étrangères les unes aux autres, mais bien synthèse, on y revient, de tous les objets du savoir. Et si les vicissitudes des temps en paralysent ou ralentissent l'exécution, du moins l'effort est-il loin d'être stérile. Quelle phalange d'hommes, aussi remarquables par leur valeur professionnelle que par leur foi et leur vie chrétienne, sont ainsi fournis à l'Église et à la société. Moi, je n'ai aucun ancien étudiant qui soit au chômage. Tous trouvent du travail, complètent leur formation, souvent, parce qu'aujourd'hui, les études s'allongent, c'est sûr, mais... Et faut pas avoir peur de son nombre. Au contraire, on est même plutôt bien coté parce que je ne brade vraiment pas les diplômes. Hein. Et même, c'est souvent d'ailleurs un reproche qu'on peut me faire, c'est plutôt « Ah ben finalement, ce serait plus facile d'aller ailleurs parce qu'on aurait le même diplôme. » Mais moi, je ne cherche pas la facilité ou simplement le diplôme, mais d'abord la formation. Donc il y a plusieurs de cours, il y a des cours supplémentaires du latin, par exemple, etc. Mais le but, c'est d'abord former l'esprit, la sagesse. Et ça suppose peut-être de donner plus. Et encore une fois, nous sommes loin de brader les examens. Bon. Conclusion réelle, enfin celle de mon intervention, que vous n'avez pas. Si, vous l'avez sous les yeux. Donc vous la lisez, c'est œuvre d'intelligence, etc. Donc l'université sert l'Église, elle sert la cité, parce qu'elle va former des gens qui auront cette clé de voûte, cette sagesse, qui s'acquiert avec la maturité, et qui souvent, on l'a pas souvent à 18 ans. Bon. Voilà donc résumé à grands traits, et je vous ai mis, pour la bonne bouche, cette belle citation de Pie IX. C'est intéressant parce que c'est Pie IX qui a le plus fortement peut-être condamné le libéralisme. Et il disait ceci, « Les plus grands malheurs, nous sommes en 1864, l'eau a coulé sous les ponts. Les plus grands malheurs attendent la société où l'éducation publique et privée de la jeunesse est soustraite au pouvoir modérateur de l'Église et à son action salutaire. Par là, en effet, la société perd peu à peu ce véritable esprit chrétien qui seul peut conserver d'une façon stable les fondements de l'ordre et la tranquillité publique, procurer et régler le véritable et utile progrès de la civilisation et fournir aux hommes le secours dont ils ont besoin pour obtenir le salut éternel. Ainsi soit-il. » Donc voyez bien cet esprit qui est celui de l'Église et qui anime la fraternité, bien sûr, et toutes les œuvres de la tradition, notamment l'œuvre scolaire et aussi l'œuvre universitaire qui fait partie de la sagesse, de l'apprentissage, de l'éducation. Donc, voilà. Je n'ai pas pu vous parler du contenu des cours, des programmes, tout ce qu'on peut faire, mais s'il y a besoin, je suis à votre disposition. Si vous voulez recevoir le courrier, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Voilà. Si vous voulez recevoir un peu le courrier de l'Institut Saint-Pédis, un peu être courant de nos conférences, des enregistrements, des publications, etc., n'hésitez pas à me donner votre nom, adresse, et puis on vous enverra ça. C'est gratuit. Profitez-en. Voilà, merci. Restez bien recueillis, bien sûr, et prenez encore de bonnes résolutions, ça peut aider.